Et ce matin, dans le Vue d'Europe, Lise, vous êtes entretenu avec Hans Jakob Schindler, directeur principal au Counter Extremism Project et au centre de recherche d'Auschwitz sur la haine, l'extrémisme et la radicalisation. Il nous donne son analyse de la guerre en Iran et de la façon dont les États-Unis et l'Europe la gèrent.
Mr. Schindler, hello.
Thank Monsieur you so Schindler, much bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
So, you are actually in New York. But you
vous êtes à New York, mais vous avez travaillé en Allemagne et en Europe. Diriez-vous que l'Europe mène une lutte efficace contre le terrorisme?
Écoutez, je veux dire, il est clair que les stratégies de lutte contre le terrorisme sont devenues plus nuancées. Elles sont mieux intégrées au système. Mais elles ne répondent toujours pas sur le plan conceptuel aux exigences de notre époque. Nous avons beaucoup parlé lors de cette conférence du 7 octobre en tant qu'attaque terroriste, mais ce conflit n'est qu'un conflit parmi toute une autre série de conflits qui entourent l'Union européenne et qui alimentent l'Europe en extrémisme et en violence. Nous avons donc bien sûr la grande guerre en Ukraine, nous avons le conflit au Moyen-Orient, non seulement avec le Hamas et le Hezbollah, mais aussi désormais dans la région du Golfe. Nous assistons à une résurgence d'Al-Qaïda et de l'État islamique en Afghanistan et nous assistons à une déstabilisation totale entre l'Atlantique et le Pacifique. En Afrique subsaharienne, où se trouve la zone de croissance la plus importante d'Al-Qaïda et de l'État islamique à l'échelle mondiale. L'Europe n'est donc pas, à l'heure actuelle, dépourvue de zones de conflit et de menaces terroristes, compte tenu de cette situation et de la flambée sans précédent d'antisémitisme que nous observons depuis le 7 octobre, et qui se poursuit malgré un cessez-le-feu en vigueur depuis longtemps à Gaza, nous devons compléter l'approche que nous suivons depuis des années. Cette approche que nous appliquons depuis deux décennies est essentiellement ascendante. Nous examinons chaque acte terroriste, chaque cellule terroriste ou chaque auteur d'acte terroriste et nous essayons bien sûr de les retrouver, de les arrêter et de les poursuivre en justice. C'est l'approche pénale que tout gouvernement dans une société démocratique se doit d'adopter, mais cela doit être complété par la prise de conscience que ce niveau d'extrémisme, ainsi que la violence extrémiste en Europe, y compris la violence antisémite, ne peuvent plus s'expliquer uniquement par des individus agissant de manière isolée. Il faut également se concentrer sur les réseaux sous-jacents, leur fonctionnement, leur connexion, et ce qui est très, très important, l'argent qui permet à ces réseaux de fonctionner.
Monsieur Schindler, on a parlé de l'Europe, la plupart du temps l'Europe est divisée, sur chaque question quasiment l'Europe est divisée, mais avez-vous...
Je dirais que l'Europe est diversifiée.
Ok, bon, en tout cas, avez-vous été surpris que l'Europe soit si divisée pendant cette guerre contre l'Iran?
Pour être tout à fait honnête, il y avait de solides arguments pour expliquer pourquoi traiter avec le régime iranien, et en particulier son dossier nucléaire, par des moyens militaires, qui serait une entreprise très risquée et très coûteuse. Et ce ne sont pas seulement les gouvernements européens, mais aussi plusieurs administrations américaines successives qui sont arrivées exactement à la même conclusion. Ainsi, si l'administration américaine actuelle avait consulté les Européens en Israël, ceux-ci lui auraient certainement conseillé de ne pas le faire. Cependant, cela ne masque pas le fait que cette guerre est en cours. C'est une réalité. Je trouve vraiment un peu surprenant que de nombreux gouvernements de l'Union européenne semblent avoir du mal à discerner où se situent nos intérêts européens ou les intérêts de sécurité nationale de chaque pays dans cette guerre. Maintenant que la guerre a commencé et qu'elle s'oriente clairement dans cette direction, le régime espère que l'opposition pourra le défier et qu'une structure politique plus modérée émergera. Dans cette situation, la survie de ce régime ne peut en aucun cas servir l'intérêt européen ou l'intérêt national d'aucun pays de l'Union européenne.
Beaucoup ne s'en sont pas vraiment souciés et affirment que cette guerre ne concernait pas l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord avec eux?
Je soutiens toujours que ce n'est absolument pas notre guerre. Personne n'a demandé l'avis des Européens, personne n'a consulté les Européens, mais c'est toujours à 100% notre problème. Et c'est même davantage notre problème, à l'exception d'Israël, que celui des États-Unis. Tous les effets négatifs d'un régime affaibli, mais toujours en place en Iran, toucheront d'abord l'Europe, bien avant que cela n'affecte le continent américain ou l'économie américaine. Que se passera-t-il donc si ce régime survit ? Il sera affaibli. Cela signifie qu'il devra rétablir son contrôle sur le monde, à l'intérieur du pays et dans la région. Comment va-t-il s'y prendre ? À l'intérieur du pays, le régime a déjà déclaré que cette guerre sera terminée, il passera à l'action et l'a annoncé publiquement sur les chaînes de télévision publique en Iran. Une fois cette guerre terminée, nous allons vous venger de tous ceux qui ont manqué de loyauté dans le pays ou de tout Iranien à l'étranger qui a aidé l'Iran. Cela signifie qu'il va déclencher une orgie de violence contre toute personne dans le pays qui a critiqué le régime, simplement pour rétablir son pouvoir, car il est affaibli. De plus, il devra se montrer extrêmement agressif dans ses relations avec les régimes du Golfe, et cela inclut également sa gestion du détroit d'Ormuz, ce qui signifie que le régime a toujours été un facteur d'instabilité dans le Golfe. Il le sera d'autant plus qu'il est affaibli, et le détroit d'Ormuz servira de levier pour tout ce qu'il voudra obtenir de l'Europe ou de n'importe quel État de la région. L'exportation de pétrole et de gaz via le détroit d'Ormuz constituera un problème permanent à l'avenir. Cela nous concerne. Et troisièmement, le régime va bien sûr tenter de reconstruire son programme de drones. Il va tenter de reconstruire son programme de missiles. Il est fort probable qu'il tente de reconstruire son programme nucléaire dans le but d'obtenir une bombe le plus rapidement possible. Ce qui est encore une fois d'abord un problème israélien et ensuite un problème européen. Il faudra beaucoup de temps avant que cela ne devienne un problème américain, c'est donc notre problème.
En parlant du problème nucléaire et même du problème des missiles balistiques, ça n'est pas un problème nouveau. Tout le monde savait que l'Iran préparait cela et avait le nucléaire, même avec l'accord du JCPOA auparavant, ce qui, comme la plupart des gens le pensent, n'était pas une bonne chose. Alors comment expliquer que les gens aient laissé l'Iran continuer ses programmes pendant toutes ces années ?
Écoutez, je veux dire, je qualifierais le JCPOA à la fois de succès et d'échec. Si vous regardez ce qu'était le JCPOA, le texte même du JCPOA, ce qu'il disait, ce qu'il voulait atteindre, l'idée qu'il visait, il a atteint cet objectif. Il a limité la quantité de matière nucléaire dont disposait l'Iran, le nombre de centrifugeuses dont disposait l'Iran, de manière très efficace et vérifiable, premièrement. Deuxièmement, il a limité la portée des missiles balistiques iraniens, car on oublie souvent qu'il y a un petit passage dans ce texte qui stipule que les missiles balistiques à longue portée des Iraniens continuent de faire l'objet de sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà donc ce qu'il a accompli. Ce qu'il n'a pas accompli, c'est ce que l'on espérait du JCPOA, et c'est pourquoi il a été en même temps un échec. L'espoir du JCPOA du côté européen et à l'époque de l'administration Obama était de bénéficier de 15 ans d'allègement de la pression des sanctions sur le pays, ce qui nous permettrait de renouer des relations économiques avec le régime et le pays, ce qui, espérons-le, conduirait à une meilleure situation économique et politique. Ce qui permettrait alors aux deux parties de discuter des relations de l'Iran avec ce réseau de groupes terroristes par procuration, du Hamas au Hezbollah en passant par les Houthis et les milices irakiennes. Le programme de drones, et en particulier celui de missiles balistiques à moyenne portée que l'Iran a développé en raison de son isolement, cela ne s'est pas concrétisé. En fait, l'argent que le régime iranien a obtenu grâce à l'allègement des sanctions que les Européens ont temporairement mis en place dans le cadre du JCPOA n'a pas été investi dans de véritables projets économiques. Il a été massivement investi dans la poursuite et le développement de son programme de missiles. Ainsi, ce que le JCPOA, en tant que contrat entre les deux parties, était censé accomplir, il l'a fait. Mais ce qu'on espérait accomplir avec ce programme, il ne l'a absolument pas fait. En fait, il a même abouti au contraire. On pourrait donc avancer les deux arguments. C'était un échec, mais on pourrait aussi dire que c'était un succès.
Pour ma dernière question, j'aimerais avoir votre avis sur le discours qui circule actuellement au sujet de cette guerre, en particulier au sujet de Donald Trump. Quand on écoute les médias européens, ils ne cessent de dire que Donald Trump n'a pas réfléchi à ce qui allait se passer à Hormuz, que Donald Trump n'était pas préparé à cette guerre, qu'il n'a pas vraiment beaucoup réfléchi avant de faire cette stratégie. Qu'en pensez-vous ?
Écoutez, il n'y a pratiquement aucun scénario qui, 5 semaines après, ne soit en aucune façon surprenant. Les Iraniens avaient annoncé en 2005 qu'ils avaient remanié leur doctrine militaire pour adopter cette loi disant « défense en mosaïque », ce qui signifie une structure de contrôle hégémonique décentralisée.
Redone their military doctrine into this so-called mosaic defense, which means it decentralized their command and control structure. Iranians have long said.
Les Iraniens affirment depuis longtemps que s'ils subissent une attaque militaire, ils perturberont le détroit d'Hormuz. Les Iraniens avaient menacé de s'en prendre aux infrastructures civiles de la région s'ils étaient attaqués. Rien de tout cela n'est donc surprenant. La campagne militaire conventionnelle d'Israël et des États-Unis a été un succès total. Il y a eu 13 000 frappes contre l'Iran. Un avion a été abattu, n'est-ce pas ? Cela n'aurait donc pas pu mieux se passer. Le problème, c'est la seconde moitié des exercices de guerre. La réponse à la riposte prévisible du régime sous forme de guerre hybride face à une attaque militaire conventionnelle, cette partie-là n'était pas la bonne réponse mise en œuvre par les États-Unis ou les Israéliens jusqu'à très récemment. La fermeture du détroit d'Hormuz n'aurait donc pas dû avoir lieu il y a quelques jours, mais dès le premier jour où les Iraniens ont perturbé le détroit d'Hormuz. Pour faire très clairement comprendre au régime que si leur perturbation du détroit d'Hormuz crée un problème significatif pour l'économie mondiale, il est en réalité leur talon d'Achille sur le plan financier. Alors que 20% du pétrole consommé dans le monde transite par le détroit d'Hormuz, 100% du pétrole iranien et 100% du gaz et des produits pétrochimiques que l'Iran exporte passent par ce détroit.
Vous êtes donc convaincu que l'Iran va revenir à la table des négociations pour cette raison ?
C'est-à-dire si le blocus peut être maintenu et l'escalade évitée, que la situation ne dégénère pas à nouveau en une guerre de tirs croisés, le régime iranien n'aura d'autre choix que de revenir à la table des négociations. D'ici une semaine, 2 semaines, ils vont connaître d'importants problèmes financiers à Téhéran. Car lorsque vous ne vendez pas votre pétrole, il n'y a pas non plus de rentrée d'argent. C'est-à-dire que vous n'avez plus aucune source de revenus. Le régime n'aura donc pas le choix. Et le régime iranien, c'est vraiment important à comprendre depuis sa création, si l'on se réfère au livre de l'ayatollah Ruhollah Khomeini, l'homme qui a eu l'idée de la République islamique et qui a écrit le livre sur le Velayat Farih, le guide suprême, et sur la manière dont un tel système politique était censé être établi. Dans ce livre, il dit que si la survie du régime exige de détruire une mosquée pour construire une route, on détruit la mosquée. La survie du régime est la chose la plus importante.
En gros, ils sont donc prêts à tout.
Le régime est tout à fait disposé à faire des compromis lorsqu'il se sent gravement menacé. Il y a un autre moment concret, en fait, assez intéressant, où le régime, ou plutôt 2 moments. Khomeini accepte le cessez-le-feu avec l'Irak, n'est-ce pas ? La fameuse ruse des pelles empoisonnées. C'était parce qu'il estimait que le régime était en danger de mort. Et en 2003, après la chute du régime de Saddam Hussein, le président iranien de l'époque, Khatami, écrit une lettre à l'administration américaine dans laquelle il dit « Nous pouvons discuter de la question nucléaire, nous n'avons plus vraiment besoin de nos intermédiaires, nous devrions entretenir directement nos relations ». C'était tellement conciliant que l'administration George W. Bush n'a pas cru qu'il s'agissait d'une lettre envoyée par le régime. Il pensait que c'était juste le président Khatami et qu'il n'avait pas le soutien du régime. Mais cela montre bien que le régime, lorsqu'il s'agit de la question nucléaire, est prêt et capable à faire des compromis. Le problème avec ce compromis, c'est que si nous l'acceptons, nous abandonnons aux substances le peuple iranien. Si nous faisons des concessions à ce régime avant qu'il ne se déstabilise, alors le peuple iranien devra continuer à vivre sous ce régime et la meilleure chance qu'il ait eue depuis 47 ans de se débarrasser de ce régime sera perdue. Il faudra attendre très longtemps avant qu'une telle chance ne se présente à nouveau. C'est le prix à payer pour mettre fin à la guerre tout en raisant le régime intact. Mais le régime iranien fera une offre, j'en suis tout à fait sûr et certain.
Espérons que l'Occident ne l'acceptera pas.
Le problème, c'est qu'outre le calendrier économique qui est un peu variable, il existe un calendrier politique très contraignant dans lequel l'administration israélienne que l'administration américaine devront mettre fin à ce conflit. Il s'agit des élections en Israël qui auront lieu fin octobre. Et des élections aux États-Unis, les élections de mi-mandat qui auront lieu, elles, en novembre. Ils ne peuvent pas se permettre un conflit de cette ampleur. Aucun des deux gouvernements ne peut se permettre un conflit de cette ampleur.
Ni les populations.
Il devra donc prendre fin quelque part à la fin de l'été, au plus tard en juillet. Peut-être en août. Très, très, très au plus tard. Si à ce moment-là, le régime est toujours en place et que le verdict n'est pas encore rendu, il est probable que le reste, alors, est fini. La chance est passée, car alors, les deux gouvernements devront se lancer dans une campagne électorale. Et ni Donald Trump, ni le Premier ministre Netanyahou ne sont particulièrement désireux de perdre cette élection. Donald Trump, parce qu'il n'aime pas perdre les élections, nous le savons, et le Premier ministre Netanyahou, parce que s'il perd les élections, il a toute une série de procès en cours, dont aucun ne va bien se passer pour lui. Il a donc un intérêt personnel à gagner. C'est donc là que se situe le calendrier qui ne peut être repoussé. Les gouvernements américains et israéliens doivent donc veiller à ce que la partie iranienne comprenne bien qu'il s'agit là du calendrier et qu'elle ne se laisse pas les mener en bateau par ces négociations jusqu'à l'arrivée de cette échéance.
Merci beaucoup, M. Schindler, pour cette analyse.
Je vous en prie.